Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Larzac et tout de suite, on retrouve le supplément d'agenda.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce supplément d'agenda, nous sommes avec Rafat et Asti King, deux artistes de street art. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes à trois pour cette interview avec Inès et Nicolas. Salut.
Salut Sophia.
Salut.
Et puis on est à trois aussi du côté de la technique avec Nico, Naïs et Milo. Coucou.
Bonjour.
Vous venez d'animer une semaine de stage d'initiation à la street art en collaboration avec Aporia Culture à Ping Pong Le Toit dans le cadre de l'exposition L'Art nous raconte, consacrée à la street art, visible à Ping Pong Le Toit et dont le vernissage est prévu ce samedi 28 et dimanche 29 octobre.
Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré tous les deux dans le street art? Comment vous avez commencé?
Je pense que c'est presque le même début pour tous les deux, c'est qu'on était dans les sports de rue, un peu de glisse, donc pour ma part le BMX, et puis après ça a découlé vers la peinture, vu que c'est assez lié et qu'on est souvent en train de pratiquer ces sports-là dans les endroits où se pratique aussi la peinture, donc de fil en aiguille, ça s'est découlé comme ça.
Ouais, totalement. Je rejoins Raph sur les pratiques urbaines. Moi, c'était plus le roller street que j'ai commencé étant petit, ado. Ça m'a suivi pendant un bon moment. C'était une vraie passion. Et du coup, on est habitué à fréquenter l'espace public et puis à le voir aussi différemment pour proposer des pratiques plus artistiques, créatrices. Et c'est ce qui a amené à nos pratiques d'aujourd'hui.
Donc le street art a beaucoup de supports différents. On le voit sur des murs, des bâtisses, on voit aussi des affiches, des pochoirs. Enfin, il y a vraiment une grande diversité. Comment vous choisissez un support plutôt qu'un autre ?
Ça dépend de différents types de projets. Je pense que la proposition va s'adapter aussi au support. Donc il y a différentes manières d'intervenir, plus ou moins autorisées. Et je pense que la création qu'on va amener, le temps qu'on aura aussi pour le réaliser, dépend aussi de cette partie sauvage ou légale ou même de commande. Et c'est ça qui va amener une proposition qui va varier en fonction de ces critères-là.
Ouais, je suis assez d'accord avec Al. Le contexte va apporter beaucoup de choses et va faire qu'on va se positionner par rapport à une surface ou à une autre. Des fois, c'est juste parce qu'elle nous saute aux yeux ou des fois, c'est parce qu'on nous demande d'y travailler dessus. C'est assez différent en fonction des situations, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment être appelé par le support et avoir une envie de création avec un visuel qui va directement nous venir en tête. Et même cette envie-là va nous entêter jusqu'à la réalisation, quitte à prendre des risques ou à demander des autorisations si vraiment on a un désir profond d'aboutir à ce projet-là. Ouais.
Donc, c'est aussi le support qui... influence vos idées, vos créations. Je suppose dans le processus, vous avez une idée de création et puis peut-être qu'elle va changer aussi en fonction du support que vous voyez.
Ouais, pour ma part, il y a le support, mais il y a également son environnement direct. Et là, par exemple, pour Ping Pong réalisé avec Aporia et les archives également, le site, déjà, qui est une ancienne mégisserie, apporte beaucoup de matière et d'ingrédients pour pouvoir concevoir un projet sur mesure, in situ et adapté à la fois à la semaine et aux rencontres qu'on va mettre en place avec du jeune public, mais aussi avec le passé du lieu où on a eu la chance de pouvoir récupérer beaucoup d'archives photographiques, de textes qui nous ont permis d'alimenter cette semaine de stage et les créations qui en découlent également. Ouais.
Et quelle est la différence entre le graphe et le tag? Car parfois on peut penser que ce sont des synonymes.
Alors, la première différence, c'est simplement l'histoire. C'est que ces deux pratiques qui ont commencé différemment, enfin, tout est parti, tous ces arts de rue sont partis du tag, qui, si on veut résumer, en gros, c'est des signatures, simplement, avec du très simple. Et le graphe, après, c'est la descendance avec beaucoup plus de volume, de matériel, de couleurs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dessiné, pas simplement qu'écrit, même si c'est basé sur la lettre aussi et que ça appartient au domaine de la calligraphie, quoi.
Le graffiti, c'est vraiment juste... une phrase, quelque chose ? Parce qu'il y a le graphe, c'est une signature, du coup ?
Non, le tag, c'est une
signature. Le tag, pardon.
C'est une signature. Le graffiti, c'est un peu la même chose. En fait, à la base de ces pratiques, le but, c'est de faire de l'autopromotion. Donc, tu vas faire de la pub, non pas pour une paire de chaussures ou un produit, mais pour ton nom d'artiste, en fait. la base, c'est vraiment ça. Après, les choses ont évolué et maintenant, il y a des gens qui sont quand même graffeurs, même s'ils font que du figuratif. Mais à la base, c'est quand même basé sur l'écriture, quoi.
Et le street art a un côté assez provocateur parce qu'il investit des lieux fréquentés ou des lieux institutionnels. Par exemple, à Stickling, tu as créé des œuvres dans un centre pénitentiaire.
Mm-hmm.
L'espace public est souvent, du coup, porteur de messages forts. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre en réalisant votre art ?
Ben, ils sont assez variés, même si c'est vrai qu'initialement, il y a quand même une part assez militante et revendicative, même si elle a pu se perdre avec toute l'affluence, mais tout l'intérêt populaire qui s'est amené vers ces pratiques-là, et donc forcément aussi des grandes marques et des institutions qui ont voulu accueillir justement des artistes et des propositions, où là on va peut-être perdre cet aspect-là, ou du coup créer un paradoxe entre la motivation première et le lieu d'exposition. Mais il y a quand même une forte souche, en tout cas, qui continue à pratiquer, Raph en parlera mieux que moi, mais le graffiti vandal, ou alors des propositions qui, même si on est dans un cadre institutionnel ou autorisé, on va pouvoir glisser entre les lignes ou même directement un message fort, symbolique, revendicatif, à destination du plus grand nombre. Parce que l'avantage premier qu'on a, c'est qu'on travaille en grande partie dans l'espace public, qu'on a donc un audimat, si je puis dire, super large, varié et intergénérationnel. Donc ça nous permet d'adresser des messages forts au plus grand nombre. Ouais.
Oui, et justement, on voit aussi le street art dans des lieux abandonnés. Et tu as parlé aussi de graffiti vandal. Et je pense que le street art a un vrai pouvoir dans ce cas-là pour se réapproprier ces lieux, mais aussi des fois en faire des lieux de rencontre. Donc je suppose que vous avez pu le constater ça dans votre pratique.
Depuis toujours, les lieux abandonnés, c'est ce que nous, on va appeler des terrains. Donc, c'est un peu à la fois nos terrains de jeu et nos terrains d'entraînement. C'est les endroits où on peut justement développer notre pratique sans être forcément embêté. Après, quand on investit l'espace public, les choses changent. Soit on a des autorisations et c'est plus simple, soit on n'en a pas et il faut être bien entraîné pour pouvoir faire les choses plus rapidement, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai aussi que ça permet de mettre en lumière des lieux qui sont complètement délaissés, abandonnés, qui font même peur parce qu'ils peuvent être sales ou mal fréquentés, et donc le grand public n'a pas forcément l'envie de se rendre dans ces espaces-là. Mais de par les pratiques graphiques, visuelles et artistiques qui s'opèrent dans ces espaces-là, c'est vrai que ça amène derrière une population qui va avoir envie de découvrir les nouvelles peintures. C'est des lieux qui sont en plus en constante évolution, les gens se repassent les uns sur les autres ou partagent justement des espaces communs. Et donc c'est un musée à ciel ouvert quand c'est pas fermé, ou alors dans des hangars, et oui, où ça amène justement à une fréquentation accrue de par ces activités.
Rafat, tu crées des œuvres hautes en couleur. Quelle est l'importance de la couleur dans ton art?
La couleur est importante. En fait, le but premier, je crois que c'est déjà de mettre de la couleur sur le béton gris, casser un peu cette image terne des villes, que ce soit pour tous les pratiquants. Le but, c'est ça aussi, avec le besoin et l'envie d'expression. Mais c'est le but de la couleur, c'est d'amener justement de la vie, par exemple dans ces endroits abandonnés, ternes et délaissés, ou dans certaines rues où le béton est prédominant, et c'est pas forcément beau de se balader dans une ville toute grise et qui apporte pas forcément de joie ou de réflexion ou autre. Le but, c'est quand même d'apporter ce changement et un peu de vie dans ces endroits qui en ont pas forcément.
Et donc, Al Sticking, toi, en revanche, tes créations, elles sont souvent en noir et blanc, et notamment les œuvres créées pour la Tour d'Assas à Montpellier, où tu as souhaité représenter les anciens habitants et habitantes du quartier de la Paillade. Donc, pourquoi as-tu choisi le noir et blanc ?
Ça vient des origines de ma pratique. Avant de passer à la peinture, comme mon nom l'indique, j'ai beaucoup pratiqué le collage. Et à l'époque, c'était mes photos que je retravaillais et que j'imprimais en noir et blanc. C'était beaucoup moins cher que la couleur. C'était 20 centimes les A3, ce qui me permettait, en les mixant ensemble, de créer un personnage quasiment taille réelle. Puis ensuite, en travaillant sur des tireuses de plans d'architectes, également bien plus intéressantes en noir et blanc. Et donc, automatiquement, quand je suis passé à la peinture, ma pratique est restée sur ces codes couleurs-là, noir et blanc. Et en plus de ça, mon travail fait souvent référence à l'histoire, au patrimoine. Donc, on peut retrouver un peu dans ces personnages-là, noir et blanc, justement une référence au passé, aux anciennes photographies aussi. Et ça m'arrive de rajouter quelques éléments de couleur ou du doré en particulier pour ramener un peu de lumière sur les personnages. Mais ouais, la pratique est essentiellement noir et blanc.
Et donc, on l'a dit au début, vous avez animé un stage d'initiation à la street art toute cette semaine. Et les résultats, on va pouvoir les voir au vernissage de l'exposition ce week-end. Et la transmission de la street art est au cœur aussi de vos pratiques artistiques, de vos projets. Pourquoi pour vous, c'est important de transmettre votre pratique ?
Ben, c'est intéressant déjà d'amener des alternatives. Je pense que Raph sera d'accord avec moi sur le fait d'intervenir en classe, que ce soit collège, lycée. On a un public qui est assez rapidement intéressé parce que justement, on leur amène une autre approche que des éléments plus routiniers ou classiques qu'ils peuvent avoir dans un cadre scolaire. Et puis, c'est pareil, ils sont quand même confrontés aussi à nos créations dans l'espace public. Ils ont un peu une part de mystère autour de tout ça, une envie de pratiquer aussi. Et donc là, le fait d'aller vers eux, de leur amener une explication et une possibilité de pratiquer, bah, tout de suite, ouais, ça déclenche des choses assez fortes et on travaille de manière collective, ouais, très facilement. Et donc la transmission, autant sur nos pratiques que sur ce qu'on essaye d'apporter là, depuis cette semaine, sur l'intérêt, sur l'histoire de Millau, sur bah, rien que le terme de mégisserie, quoi, la plupart ils connaissent pas, donc déjà on peut leur présenter les différentes phases de process de ces entreprises-là, et de travailler sur un site qui accueille justement aussi ces métiers-là.
Il y a aussi, par exemple, Rafat, tu as créé l'association Aérosons. Mmh. Donc c'est quelque chose, voilà, l'envie de transmettre qui est depuis longtemps dans ta pratique, dans ton projet.
Oui, oui, oui. En fait, ben, c'est important cette transmission parce qu'en dehors de la technique pure, il y a toute une culture aussi qui est liée avec. Donc c'est surtout la transmission de cette culture qui est importante à communiquer. Et comme le disait Al, c'est pouvoir proposer d'autres ouvertures que les schémas classiques aux plus jeunes, voire aux moins jeunes, puisqu'il y a aussi des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément jeunes, et ça se transmet à tous les âges. Par exemple, ces derniers temps, je travaille aussi en maison de retraite avec des personnes âgées, et c'est important aussi de pouvoir faire un pont entre les différentes générations en échangeant sur la culture, quelle qu'elle soit. Bon, nous, c'est plus facile de mettre en avant la nôtre, mais c'est surtout ça, ouais.
Et par rapport à la transmission du coup du street art, est-ce que c'est des structures qui vous contactent, comme les collèges et les lycées, comme tu le disais, Al, ou est-ce que c'est vous qui rentrez en contact en proposant un peu de faire ces animations ou...
Pour ma part, c'est beaucoup de structures qui viennent vers moi, qui proposent donc des projets d'ateliers, d'accompagnement, de découvertes, de transmission, et que j'essaye de coupler, quand c'est possible, justement avec la réalisation de fresques sur l'espace concerné ou aux abords. Donc ça permet à la fois d'avoir une pratique effectivement de transmission, d'éducation populaire, et à côté de ça, de pouvoir laisser aussi une trace sur un des murs du lieu concerné.
Merci beaucoup à vous, Rafat et Al-Sikin, pour avoir été avec nous aujourd'hui. Du coup, à partir de samedi 28 octobre, vous pourrez voir les résultats du stage de street art sur des panneaux exposés à côté des photographies de l'exposition « La rue nous raconte » à Ping Pong le Toit, et aussi une fresque de Al-Sikin. Le vernissage, c'est ce samedi 28 octobre à 18h, et l'expo reste ouverte aussi le dimanche 29 octobre, et après jusqu'au 30 novembre.
Merci.
Merci à vous.
On vous attend nombreux. À bientôt.
À bientôt, merci.
De l'info, de l'actu, des rencontres, tout ça au gré de l'actualité locale. C'était votre supplément d'agenda sur Radio Larzac.